Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons parler de la Torah d'Israël et ses secrets. Pourquoi je précise la Torah d'Israël? Parce qu'il y a beaucoup de Torot. Au pluriel, Torah, Torot. La Torah, ce n'est pas ce qu'on pense. On a tous une tendance à croire que la Torah est un livre. La Torah n'est pas un livre. La Torah a été recopiée sur un livre, sur un parchemin. Mais la Torah, c'est l'ADN de la vie. Et donc chaque élément de ce monde a sa propre Torah, puisque chaque élément de ce monde a sa propre combinaison intérieure. On peut parler de la Torah de l'oiseau, de la Torah de la vache. Ce n'est pas un bouquin. Et donc, parfois, quand je veux piéger un petit peu mes élèves, je leur demande sur quelle matière est écrite la Torah. Et tout le monde tombe immédiatement sur du parchemin, sur de la pierre, sur du papier. Pas du tout. La Torah est inscrite dans notre vie. C'est en réalité la combinaison intérieure de notre être. Et donc quand je dis la Torah d'Israël, c'est les éléments qui correspondent à cette nation d'Israël, mais qui, pour d'autres nations, peuvent être, ces notions-là, étrangères. De la même manière que je ne vais pas, moi, en tant qu'homme, vivre la vie d'un animal, je vis la vie d'un homme. Et en plus de cela, cet homme-là se trouve être un homme d'Israël, donc je dois vivre selon l'ADN qui a été donné à la nation à laquelle j'appartiens. Je résume donc la Torah d'Israël et ses secrets, et nous allons essayer de développer ce sujet qui s'inscrit dans le sujet global que nous avons déjà commencé, qui est l'identité de ce que nous sommes. A Torah idvar Hashem el haolam. Donc la Torah, comme son nom l'indique, est un enseignement, est un éclairage. Torah se dit ora. D'ailleurs en araméen, oraita. Donc c'est un éclairage, et donc c'est un langage du Créateur vis-à-vis de sa création. Le Créateur du monde parle à sa propre création. Pourquoi a-t-il besoin de parler? Bien, tout simplement parce que le Créateur n'a pas créé une réalité et l'a quittée. Il a créé cette réalité et il intervient dans cette réalité. Il va en réalité donner un sens à ce monde. Et c'est pour ça que l'intervention divine va passer par le message du divin, ce que nous appelons la parole divine. Et pour avoir une parole divine, il faut un interlocuteur. Et l'interlocuteur en question, c'est le peuple d'Israël, qui va être le porte-parole de ce que l'Éternel, Créateur, a à faire passer à sa propre création. Et donc, la Torah, Idvar Hashem El Haolam, donc la Torah est la parole d'Hashem au monde, Derech HaMetavech HaBil'adi Israël. Et ce message, cette parole, cette Torah, passe par Israël. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que chacun a sa Torah. Eh bien, la Torah de chacun passe par la Torah d'Israël. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Au don de la Torah. Au moment du don de la Torah, la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous raconte quelque chose, et nous voyons à travers ce que les sages nous racontent là-bas, que sans Israël dans le monde, sans la présence d'Israël dans le monde n'existe pas. Qui sous-entend que sans l'intermédiaire Israël qui est le porte-parole de ce message divin qui parle au monde, qui fait vivre le monde avant même de lui parler, sans cet intermédiaire, le monde n'existe plus. Il disparaît. Et c'est pour ça que l'Éternel pose la montagne au-dessus du peuple d'Israël et dit à ce peuple, si vous recevez la Torah, eh bien le monde va continuer. Et maintenant vous allez réellement commencer à vivre. Si vous ne recevez pas cette Torah, eh bien tout revient au tohu bohu, c'est-à-dire j'annule rétroactivement toute la création. Vous comprenez bien ? Israël n'étant plus l'intermédiaire de la parole divine, tout disparaît. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus rien. Hasipurim haToranim, donc tout ce que la Torah vient nous raconter dans ses histoires, Hema Levushim, ce sont en réalité des vêtements. La Torah est un vêtement, elle nous parle par code. Et il faut savoir décoder. Et ceux qui ont les clés de décoder les paroles de la Torah, eh bien, trouvent dans cette Torah ce qui est au-delà du premier degré du texte. Mais pas seulement une histoire. Il y a un message subliminal qui passe à travers le texte de la Torah. Et étant donné que la Torah est très précise, eh bien, la parole divine dans une lettre, dans un mot, est énorme. Mais il fallait la concentrer, la condenser, la contracter à un mot parmi des milliers de possibilités. Et ceux qui ont la sagesse de la Torah, ce qu'on appelle les Talmidei Chachamim, savent en réalité pourquoi ce mot a été choisi et pas un autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à la recherche du drouche de la Gemara pour comprendre en réalité pourquoi tel et tel terme, terminologie, sémantique a été utilisé, pas une autre. Et donc tous ces vêtements-là demandent à être enlevés. Il faut savoir aussi déshabiller. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est ce que nous faisons. La Torah se trouve dans sa maison. Et tous les lundis, tous les jeudis, tous les shabbats, on va la chercher, on la sort de sa maison et on la déshabille. Il y a ici une relation intime avec la Torah. D'ailleurs, le vêtement de la Torah s'appelle une robe, car la Torah est une femme. Et lorsque nous ouvrons la Torah, sans entrer dans tous les détails, mais vous comprenez qu'il s'agit là d'une relation très intime avec le texte. Et donc la lecture du texte de la Torah n'est pas une lecture anodine, c'est en réalité un accouplement. Et de cette lecture, il y a un appel. Et c'est pour ça qu'en hébreu, lire, c'est en même temps appeler. Likro. Likro. Et lorsque je lis, je fais vivre en réalité le texte, je le sors de son contexte, et je le fais vivre, et donc il commence à agir dans le monde. C'est comme si la Torah écrite sur le livre était une Torah figée, que le lecteur maintenant fait sortir de sa torpeur et fait vivre ce texte. Et selon ce qui est écrit dans ce texte, il y a une action qui est en train de s'opérer dans le monde par rapport à la chose en question. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ? C'est très simple. Par exemple, là, on vient de lire l'entrée du peuple d'Israël en Égypte, qui n'est pas encore un peuple, mais des éléments individuels. Eh bien, nous devons savoir que ce texte nous interpelle, il nous appelle. Ça veut dire que cette semaine, nous étions tous dans une forme d'Égypte. Dans un contexte dans lequel nous ne savions plus où se trouve notre identité. Même si c'est momentané, même si c'est quelques secondes, il y a eu une perte d'identité à un moment donné, un genre de « j'en ai marre, je ne sais plus trop qui je suis, qu'est-ce que je fais ?» Et à partir du moment où ce texte-là est là, mais la paracha de la semaine qui vient ça va commencer la sortie d'Égypte, eh bien, je comprends que je suis dans un processus normal, naturel, qui demande, avant ma libération, une certaine descente. Cette descente, elle aussi, bien entendu, est nécessaire, car sans cette descente, je n'ai pas la possibilité de trier les éléments qui m'appartiennent. Où sont ces éléments? Eh bien, ils sont tombés parce que mille et une raisons. J'ai fait des fautes, j'ai eu de mauvaises pensées, je ne me suis pas conduit d'une manière éthique, j'ai eu quelques ratés. Eh bien, tous ces éléments sont tombés. C'est comme si j'avais perdu des plumes et ces plumes sont tombées dans la plus basse échelle de ce monde qui s'appelle Mitzray. L'Égypte n'est pas seulement donc un pays. Alors dans l'histoire, c'est le pays, mais étant donné que nous sommes dans un décodage, nous savons qu'il y a ici une perte d'identité. Et donc, dans cette perte d'identité, je suis censé quoi faire ? Retrouver mon identité. Ce n'est pas par hasard que, immédiatement, je reçois une nouvelle appellation. Am Israël. Jamais j'ai eu cette appellation. Extraordinaire. Voilà ce que j'ai gagné en Égypte. Pas que ça. 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, je reçois la Torah. Pourquoi est-ce que je la reçois 50 jours après la sortie d'Égypte? Mais tout simplement parce qu'elle était en Égypte. Et qu'en sortant d'Égypte, j'ai libéré aussi la Torah. Et donc, c'est un boomerang. Et elle va me revenir de droit. Parce que c'est moi qui l'ai, entre guillemets, libéré par ma propre libération. Donc vous voyez que nous rentrons ici dans des méandres psychologiques qui sont très riches et qui vont très loin dans cette compréhension du texte. Et donc tous ces vêtements-là, Akadosh Baruch Hu les utilise, qu'aide les galotes et tressono babria, tout simplement pour dévoiler son vouloir. Ce pourquoi le monde a été créé. La tendance de tout ce monde, la tendance de toute cette vie, vers quoi le tout est en train d'avancer. Ce sont des questions primordiales que malheureusement la plupart des gens ne se posent plus parce qu'ils vivent au jour le jour dans un monde que les kabbalistes appelle le monde des détails, le monde des points, c'est-à-dire paumé. On ne sait plus quel est le lien entre hier et aujourd'hui, on ne sait plus les liens entre moi et lui, et on ne sait plus les liens entre moi et moi. Et tous les liens de ce monde qui sont censés nous donner une image globale, eh bien, sont complètement éclatés, à tel point que je n'ai pas une vision claire et toute ma vie devient un grand doute. Et il faut corriger tout ça. C'est un mal-être, c'est un malaise duquel il faut sortir. Cette guérison s'appelle la sortie d'Égypte. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'une maladie, c'est l'Égypte. Le texte est précis. « Kol ha-machala asher samti b'mitzrayim » Toutes les maladies se trouvent dans ce concept Égypte. Autrement dit, quand quelqu'un est malade, c'est qu'il est tombé dans cette Égypte et il faut maintenant décoder pour savoir dans quelle forme d'Égypte il est tombé. Dans quel emprisonnement mental, physique, il est tombé. Sans diagnostiquer, on ne peut pas guérir. Et donc tout le texte de la Torah, c'est un grand diagnostic. Et il faut savoir vers quoi cette Torah fait avancer dans l'histoire de l'humanité. Alors on va prendre un exemple. Chez Yaakov Avinu Alav Hashalom Mevarech et Banav Lifnei Yitzalkulo Mina Olam Hazeh. Lorsque Yaakov, nom de code, alors vous, pour vous Yaakov, c'est un vieillard, notre arrière-grand-père, d'accord. Ça c'est le texte de la Torah. Mais sachez que Yaakov, au-delà d'être notre père, représente en fait une certaine énergie. Et donc cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? De bénir ses enfants, dans le premier sens de la traduction. Levarech et vanav. Mais en réalité, en hébreu, levarech ne veut pas dire bénir, mais plutôt relier, comme berech, le genou. Le genou fait le lien entre la partie basse et la partie haute. J'allais dire entre le « je » et le « nous ». Et donc, les varech et banav, c'est pas seulement que Yaakov va vouloir bénir ses enfants, c'est que Yaakov va faire le lien entre tous les uns et les autres et va leur dire les qualités qui correspondent à chacun. Ça, c'est une force. Que nous, c'est la même bénédiction pour tout le monde. Mishé berach avotenu Avraham Yitzhak veYaakov uYevarech et Hashem atov ta 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 ta. Si vous écoutez les paroles de Yaakov, ça n'a rien à voir avec ça. Chaque enfant reçoit une phrase, deux phrases, trois phrases selon la qualité intrinsèque qui correspond à l'âme de cet enfant et à tout ce qu'il devra faire dans sa vie. Et lui et toute sa descendance. Si on avait cette capacité, eh bien chaque enfant saurait vers quoi il doit avancer dans sa vie. Nous, on élève des groupes. Tu as 5 enfants, tu élèves un petit machané, un petit camp de 5 enfants. On mange ensemble, la même chose, on parle des mêmes choses, mais c'est pas pareil. Chanoch Lanar Alpidarko, on aurait dû avoir une éducation qui correspond à chacun des enfants selon sa vraie nature. Et l'expression de la Torah, Ish Asher Kebirkato. Voilà le texte en entier, Vezot en gras, Asher Diber Lahem, voici ce qu'il leur a dévoilé, Diber. C'est quoi Diber en hébreu? Très important de revenir aux racines. Parler. Et alors, amar, c'est quoi? Dire. Et quelle est la différence entre parler et dire? Ah bon? Et quand je te dis, alors? Et quand je parle? Et quand je te parle? Non, mais vous avez raison. Mais en français, on mélange tout. Mais en hébreu, quiconque sait parler véritablement la langue, eh bien, quand je suis Omer, je me dis les choses. Ami Omer, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en face de moi. Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Baruch Omer Ve'oseh. Dieu, quand il dit, et que la terminologie est Amar, eh bien, il se parle à lui-même. Et c'est un dévoilement de 3 degrés, qui sont les initiales de Amar, Aleph Memresh. Aleph, c'est l'idée première. Mem, c'est le passage. Et Resh, c'est la définition elle-même. Dans le langage de nos Kabbalah, de la Kabbalah, Aleph, c'est Or, c'est la lumière. Après, ça passe par un élément liquide, Maïm et Rakia. Amar. Or, Maïm, Rakia. Chaque dévoilement doit passer par ces 3 étapes. Exactement comme pour faire un bébé. Il y a d'abord l'idée dans le cerveau du père, après cela passe dans l'élément liquide, qui est la goutte de semence, et qui va se fabriquer dans le ventre de la maman. Donc vous voyez que vous faites la même chose sans le savoir. Par contre, diber, c'est extériorisé. Comment on dit dehors? Bar. Da, bar. Vous avez un chatoul bayit, un chat de maison, et un chatoul bar, un chat sauvage qui vit à l'extérieur. Eh bien, da, bar. Quand je dis diber, c'est que j'exprime les choses, je les sors. Et donc j'ai un interlocuteur en face de moi. Aseret ha-dibrot. Là, j'ai déjà un peuple auquel je parle. Donc, vezot asher diber lahem aviem, veivarech otam ishke birkato berach otam. Regardez bien le texte de la Torah, il est très précis. Ishke birkato. Chacun selon le lien qui appartient à sa structure, j'allais dire ADN, qui lui est propre. On ne rate pas, on ne répète pas les mêmes bénédictions à tout le monde. Soyez bénis, mes enfants. Aucun rapport avec tout ça. Donc, que fait Yaakov? Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement pour moi. Parce que Yaakov, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement l'arrière-grand-père, c'est une énergie. Or, cette énergie se trouve où? Chez toi. Chez moi. Est-ce que tu as trouvé le Yaakov qui se cache en toi? Car si tu trouves le Yaakov qui se cache en toi, tu seras capable de faire quoi? La même chose. C'est-à-dire de prendre des éléments complètement différents et savoir exactement les caractéristiques de chacun. Extraordinaire. Seulement pour nous, Yaakov, c'est un acteur de la Torah, un arrière-grand-père qui est mort et qui était notre patriarche, et c'est fini, ça reste là-bas. On n'a pas rien compris. Yaakov, c'est moi. Et quand Yaakov fait des efforts dans sa vie et qu'il devient Israël, car c'est ce qui s'est passé, eh bien c'est la même chose chez moi. Est-ce que j'ai la capacité en tant qu'homme d'Israël de passer de l'élément Yaakov à un élément supérieur qui s'appelle Israël? Waouh! Est-ce que vous avez passé ce degré-là? Pour passer ce degré, il faut passer par un passage secret qui s'appelle Ma'avar Yabok. Ça s'appelle le Yabok. Encore un code. Vous voyez, tout est codé. Alors les gens qui ne connaissent pas, Yabok, c'est le lieu en question. Mais Yabok, ce sont des combinaisons de quelques noms d'Akadosh Baruch Hu entre elles, entre eux, ces noms-là, qui vont donner en valeur numérique Yabok et qui représentent en réalité la capacité de passer d'un élément et de transcender, de grandir, de pousser. Eh bien, si vous n'avez pas passé dans votre vie votre Ma'avar Yabok, ce passage du Yabok, eh bien vous êtes bloqué. D'ailleurs, nous avons ce petit Ma'avar Yabok pour les hommes qui mettent les tefillin tous les matins. Le passage où la Ressoua est de la main et de la tête rentre d'un côté et sort de l'autre, la lanière, eh bien ce passage, ça s'appelle Ma'abarta Ma'avar Yabok. C'est un secret. Et donc en mettant les filines sur moi le matin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me conditionne à passer mon Yabok pour devenir de Yaakov, grandir et être Israël. Vous comprenez comment c'est la Torah? Alors si tu dis à quelqu'un, mets les filines, lui, il a l'impression que c'est tombé dans la religion. Il ne comprend pas. Alors, il ne veut pas. Mais si tu commences à lui expliquer ce que je suis en train de vous dire, et il y a tellement d'autres éléments, je vous garantis qu'il va courir acheter des tefilines demain matin. Donc, Yaakov Megale Be'etzem et Abitouy Anafshi Psychologi Ameyuchad Lekol Echad Ve'Echad Vishifte Israël. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler? Eh bien, tout simplement, l'expression psychologique de l'âme spécifique à chacun des tribus, à chacun des enfants, à chacune des tribus d'Israël. Et donc, à partir du moment où je sais de quelle tribu je suis tributaire de ces éléments. Et je commence en réalité à comprendre quel est mon secret. Or, des 12 enfants d'Israël, donc de Yaakov, vous comprenez qu'il s'agit de 12 possibilités différentes d'être, tout simplement. Le Magen David, il a combien de pointes? 12. 6 en relief et 6 en creux. Et donc quand vous dessinez un Magen David, vous dessinez l'ensemble des possibilités d'agir dans ce monde en tant que peuple d'Israël. Et ça protège qui en réalité? Eh bien notre royaume du ciel que nous devons dévoiler sur terre, qui s'appelle David. Donc Magen David veut dire protection de David. Pas juste le nom du signe, c'est un Magen, c'est une protection. Un bouclier qui est formé de trois anges, Magen, Michaël, Gabriel et Nouriel. Ça devient très compliqué. Mais en réalité, c'est complexe et très riche. Hanigud ben Chelka Uma Israeli. Donc quand vous avez lu, il y a quelques semaines, quelques Shabbatot, les conflits entre les frères, Yaakov est désemparé entre guillemets parce que Yosef et ses frères se disputent. Parmi les frères, il y a aussi des contradictions. On finit par vendre Yosef, le jeter dans un trou. Vous avez compris ce qui se passe? C'est une explosion de chacun de nous dans notre être. Un jour, dans notre histoire, nous sommes capables de vendre qui? Notre Yosef. Encore un nom de code. Si tu vends ton Yosef, tu ne peux plus rien faire. Parce que le Yosef, c'est celui qui rajoute. C'est celui qui fait que tu es demain un lendemain. Si tu n'as pas de lendemain, tu n'as pas de Yosef. Donc celui qui a vendu son Yosef n'a pas de lendemain. Effectivement, à partir du moment où on a vendu Yosef, tout est en train de se casser la figure. Jusqu'au moment où on récupère Yosef. Dans la paracha qu'on vient de voir, et juste avant. Tout ceci, encore une fois, pourquoi tous ces conflits? Eh bien, ils sont nécessaires. Parce que sans ces conflits, eh bien, les éléments, les 12 éléments, n'ont pas réellement encore compris leur spécificité. Ça ne sert à rien de faire le shalom. Qu'est-ce que c'est faire le shalom? Est-ce que faire le shalom, c'est annuler tout le monde? Non, c'est pas ça le shalom. Ça, c'est la mort. Des fois, je vais dans des mariages et j'entends celui qui marie, qui parle au public, et en même temps au Khatan et à la Kala, en leur disant, vous savez, mon cher Khatan, ma chère Kala, vous êtes maintenant deux, et maintenant un plus un va faire un. Donc il y a un des deux qui est mort. Un plus un, ça fait pas un. Ça fait même pas deux. Ça fait trois. Parce qu'il y a lui, il y a elle, et il y a l'élément au milieu qui transcende les deux. Je préfère. Parce que 1 plus 1 égale 1, ça veut dire qu'un des deux est mort. Et d'ailleurs, dans un couple, il y a toujours un des deux qui meurt. Quand on ne sait pas gérer son couple. L'un veut tuer l'autre, l'autre veut tuer l'un. Gentiment, hein, calmement, en douceur. Ça prend quelques années. C'est-à-dire, on le met dans l'eau chaude, tout doucement, il meurt tranquille. Donc en réalité, il fallait d'abord un conflit, qui n'est pas un conflit pour exterminer l'autre, mais pour faire valoir ma spécificité par rapport à la sienne. Sinon, je ne me connais pas. Ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que c'est que la véritable traduction du shalom? C'est une hashlama. Ani mashlim otra ve'ata mashlim oti. Nous nous complétons. C'est ça le véritable shalom. Talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Qu'est-ce que ça veut dire que les sages font la paix dans le monde? Non, ils font en sorte que tout se complète parce que les sages savent que je n'ai pas toute la vérité. Que monsieur doit rajouter une partie que moi je n'ai pas. Que madame doit rajouter une partie que moi je n'ai pas. Et moi je vais rajouter la partie que eux ne savent pas. Et entre tous, nous pouvons recevoir un semblant d'une volonté divine infinie. Parce que Yosef représente un élément masculin invisible. C'est encore un autre code. Yosef est masculin par rapport à tous les autres frères qui sont féminins. Et donc, comme dans ses rêves, il dit « Je suis au milieu et vous êtes autour de moi ». Vous avez déjà vu un mariage où la femme tourne autour du mari ? Donc en réalité, la femme est une muraille, c'est celle qu'on voit, elle est là, elle est dans ce monde. Et le mari est au centre, mais il est invisible, il est de l'ordre de la Neshama. Ça veut dire que Yosef, c'est comme la Neshama des frères. Donc je vous traduis un petit peu plus en profondeur. Tous les éléments corporels, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu leur âme au diable. C'est de là que vient l'expression. C'est la vente de Yosef. On l'a jeté dans ce trou. Seulement, comme on ne peut pas se débarrasser de l'âme, parce que l'âme est éternelle, donc Yosef, même dans le plus profond des trous en Égypte, va devenir roi du trou. Il est toujours roi. Un jour, il est roi de la prison, un jour, il est roi de la poubelle, un jour, il est roi d'Égypte. D'ailleurs, c'est la force de l'unité. Comment s'appelle Yosef dans la Torah ? Non. Jamais on écrit Yosef à Tzadik. C'est les sages qui ont donné cette terminologie, mais dans la Torah elle-même. Comment est-ce que les frères même l'appellent quand il n'est pas là ? Ha-Echad. Ha-Echad Einenu. The One. Le Un n'est pas là. Si le Un n'est pas là, c'est mort. Parce que tu es dans la dispersion totale. Récupère ton Un. Comment est-ce que vous faites pour récupérer votre un, par exemple, dans la vie ? Vous allez au mikvé. Allez au mikvé. Qu'est-ce que c'est le mot mikvé ? Ne me dites pas bain rituel. Toutes ces traductions, ça commence à me sortir par les yeux. Okay. Le mikvé veut dire rassemblement, espoir, les kavos, tikva. Mekavé, kav, il y a un lien, il y a une ligne de conduite. Aller au mikvé, c'est retrouver sa ligne de l'unité. C'est ça aller au mikvé, c'est pas de se tromper dans un bain rituel. Je reviens. Cette contradiction entre les frères est nécessaire, parce que sinon, je n'ai pas ma spécificité. Comme il faut donner dans chaque maison la spécificité à chaque enfant et à chaque être qui vit dans cette maison. Sinon, il y a toujours un qui est avalé par les autres. Et après, on se pose des questions, pourquoi il y a des problèmes psychologiques ? Nové aminachon et aplini. Et tout ceci est nécessaire parce qu'il y a des différences entre nous. Et c'est normal, et c'est très riche, et c'est très bien d'avoir des différences. Le judaïsme n'a jamais mis en relief le fait d'être dans l'unicité. Dans l'uniformité, plus exactement. Pas du tout. Le peuple d'Israël veut une unité entre les différences, mais pas que tout le monde devienne uniforme. C'est une pauvreté, l'uniforme. L'uniformité. Veine, ben kol ele boletet bofen charik dmuto shel Yosef. Puisque nous avons parlé de Yosef, eh bien, dans les bénédictions de Yaakov, vous voyez que la bénédiction de Yosef, que j'ai dit tout à l'heure, la mise en lien, le relief de Yosef, est différent des autres frères. Gdolahi gambe kamud ve gambe echut. Et quand vous regardez cette bénédiction, entre guillemets, elle est beaucoup plus grande en quantité et en qualité. Ça veut dire que Yosef reçoit la totale. Yaakov n'arrête pas. On dirait qu'il s'est mis à parler de Yosef, il ne s'arrête plus. Alors que certains frères ont reçu une phrase, un mot, deux mots. Naphtali Ayala Shucha. Regardez, je vous ai photocopié, je vous ai écrit en fait ce texte. Regardez tout ce qui est dit sur Yosef. Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que c'est Porat ? Ça ne sert à rien alors d'étudier la Torah. Vous répétez des mots toute la journée, Ben Porat Yosef. Les gens, même contre le Aïnara, l'essentiel c'est de dire Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que c'est Porat ? Ça vient du mot péri, perot. C'est-à-dire c'est un enfant qui est capable de donner la vie. Et effectivement, si on devait donner un membre du corps correspondant à Yosef, c'est quoi ? La Brit Mila. Donc Ben Porat Yosef, c'est l'élément du corps par lequel la vie passe. Extraordinaire. Mais si vous inversez les lettres de Porat, vous avez aussi Tofer, c'est-à-dire couturier. Donc c'est le premier tailleur de l'histoire. Et pourquoi on l'appelle Tofer? Parce qu'il sait coudre. C'est lui qui fait l'unité entre tous les morceaux de tissu que représentent tous les frères. Donc le père va donner à Yosef un vêtement qui est une tunique rayée de plein de rayures. De combien de rayures? 12 rayures, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui correspond aux 12 rayures de tout le monde. Vous comprenez? Goutonet Passim, alors que chacun des frères avait un vêtement avec une seule couleur. Et lui, là, toutes les couleurs. Vous comprenez comment on doit comprendre la Torah? Ben Porat Yosef. Donc Yosef, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, rajouter. Mais c'est en même temps rassembler. Yosef. Ben Porat Ale Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire Ale Aïn? L'œil. Ale. Au-dessus. Au-dessus de l'œil. Traduction. Yosef ne craint pas le mauvais œil. Il n'y a pas de mauvais œil sur Yosef. Incroyable ça. Pourquoi il n'y a pas de mauvais œil sur Yosef? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est invisible. Donc les Chachamim vont tirer une conclusion dans la Gemara, il n'y aura jamais de mauvais œil sur ce qui est caché de l'œil. Donc si vous avez quelque chose, cachez-le, vous n'aurez pas de mauvais œil. Incroyable. En abracha shora, ela bemash samui min ha'ayn. Donc Yosef, il est au-dessus, ale aïn, banot saada, ale shur. Qu'est-ce que ça veut dire, banot saada? Il y a beaucoup de femmes qui marchent, qui courent. Pourquoi? Parce que Yosef était très beau. Et donc les filles, en réalité, et les hommes, en Égypte, Yosef a failli tomber aussi aux mains d'hommes qui pouvaient avoir avec lui, chas v'shalom, des rapports. Aleshour, qu'est-ce que c'est Aleshour? Encore une fois, sous une autre terminologie, regardez, comment on dit regardez en hébreu? L'Ashour. La famille Ashour, vous connaissez? Eh bien, Ashour veut dire je vois. Donc l'Ashour, c'est regarder. Yeshurun, celui qui est capable de voir. Donc Aleshour, au-dessus de la vision, encore une fois, sous une autre forme. Bien entendu, il y a une différence entre Aïn et Shour. Aïn, c'est l'œil, et Shour, c'est déjà la vision. C'est très riche, il n'y a rien qui se répète. Vatechev ve'eitan kashto. Son arc est resté fiable et solide. C'est quoi son arc? Sa brit mila. Nous disent les Chachamim, la brit mila de Yosef, il ne l'a pas utilisée pour faire n'importe quoi. Donc elle est restée propre. Malgré toutes les tentations. Mais elle a vicha ve yazrecha ve shabai ve varechecha, birkot shamay me'al, birkot seom rovetet tachat, birkot shamay varacham. Mais elle a vicha, à partir du Dieu de ton père, ve yazrecha, tu vas être aidé. Ve et shaddai, et un autre nom du nom d'Hachem, qui est le nom des limites, shaddai, qu'est-ce que ça veut dire le nom de shaddai que vous voyez dans la mezouza? C'est celui qui dit à son monde, Dai, stop. D'ailleurs, stop, ça vient du mot Yad. En français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, Yad, Yud, Dalet. 14 phalanges, Yad, on dit stop. C'est pour ça qu'on fait une main. Il y a eu un consortium mondial pour faire des panneaux rouges avec une main pour dire un stop. Ça vient de là. Birkot Shamayim Me'al, et là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Birkot Shamayim Me'al, des bénédictions célestes qui viennent d'en haut, Birkot Eom Rovetet Tachat, et des bénédictions qui viennent d'en bas. Alors, on va sortir un petit peu du texte. Je vais essayer un petit peu de vous associés au cours. C'est quoi cette bénédiction-là? Essayez de réfléchir. Il faut que ça devienne interactif. Sinon, j'ai l'impression de parler à un aquarium avec des poissons. Hein? C'est quoi cette bénédiction-là? C'est une bénédiction du ciel et de la terre. L'unité, c'est la bénédiction de qui, ça? Je vous aide. C'est la bénédiction que Yitzhak voulait donner à qui? À Esav. Yitzhak était aveugle. Il veut donner une bénédiction de la structure mondiale d'en bas. Donc il se dit qui est le plus approprié à même de recevoir cette bénédiction. Esav, c'est un chasseur, il vit dans ce monde. C'est un businessman. Je vais lui donner cette bénédiction. La maman Rivka va déguiser son autre fils Yaakov avec ces vêtements-là de Esav, très 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 poilu. Et ce petit garçon Yaakov, qui n'est plus déjà un petit garçon, va venir chez son père aveugle, et son père lui dit, viens que je te touche un petit peu. Et il dit, ah oui, c'est Esav, c'est les mains de Esav. Mais c'est bizarre parce que la voix, c'est la voix de Yaakov. Alors ça, c'est le texte pour les enfants. Qu'est-ce que vous comprenez de ce texte maintenant? Ça veut dire que Yitzhak, le papa, veut faire une bénédiction à quelqu'un qui est capable d'être dans les deux mondes simultanément. Je veux que tu aies le verbe de Yaakov qui est dans la Torah, mais en même temps je veux que tu réussisses dans ta vie, que tu aies un métier, que tu saches te débrouiller dans ce monde. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Alors que malheureusement, quand on ne comprend pas ce secret-là, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il faut être? Complètement déconnecté, dans un ciel, va étudier, ne fait rien. Mais où vous avez vu une chose pareille? Vous êtes mariés, les mecs? Dans la Ketouba, il y a marqué comme les vrais hommes d'Israël qui doivent nourrir leurs femmes. C'est quoi ça? Eh bien, Yosef, c'est lui qui réalise, une génération plus tard, la bénédiction de son grand-père Yitzhak, qui a été donnée à Yaakov, mais qui Yaakov, lui, a volé le monde matériel. Parce que Yaakov, lui, il était étudiant en Torah, Yoshev O'alim. Et donc, il avait du mal avec le monde d'en bas. Eh bien, va venir son fils à lui, donc le petit-fils de Yitzhak, et va réaliser cette association gagnante. Ça va être un homme érudit en Torah, Yosef, mais en même temps, un homme qui est capable de diriger l'Égypte entière, même pendant 7 années de famine, organiser la nourriture, l'argent, extraordinaire. Une structure économique comme jamais on a vu. D'ailleurs, si on utilisait aujourd'hui ce que Yosef a mis en place, personne ne ferait du noir. Tout le inyan de faire de l'argent au noir, c'est parce que vous payez trop d'impôts. Alors vous essayez de vous arranger un petit peu. Mais si on vous disait que si vous gagnez 100 shekels, vous gardez 80 shekels pour vous et vous donnez 20, je vous garantis que personne n'aurait envie de faire de l'argent au noir. Et ça aurait conduit à une société beaucoup plus saine. Et c'est ce que Yosef a décidé. On n'a pas le droit de payer plus que 20% d'impôts. C'est super, hein? Comme on dit en arabe, alvay alenu. Ça, c'est Yosef HaTzadik. Maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle Tzadik, parce qu'il est Tzodek, parce qu'il fait venir les valeurs du ciel dans le monde. Et il n'y a pas de différence chez lui. Il y a une couture Ben Sofer Yosef, Ben Porat Yosef. Il est capable de prendre des valeurs d'en haut et de les traduire en réalité d'en bas. D'ailleurs, comment ça se voit dans le texte de la Torah? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Yosef, nous? Et exactement, on lui raconte un rêve. Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est des valeurs d'en haut, c'est virtuel. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il prend ce rêve et il en fait une réalité. Extraordinaire. Vous êtes capable de faire ça? En fait, c'est un réalisateur de rêves. Moi, j'ai envie d'être Yosef. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie. C'est de prendre une idée et de la transformer en musique, en art, en parole, en écriture. Vous savez que c'est difficile de ne pas avoir de perte, parce qu'on se perd en chemin. Mais Yosef ne se perd pas, il n'y a rien qui est perdu. Il prend une idée qui est complètement virtuelle, et d'un coup vous entendez et vous avez l'impression que la chose est devant vous. Il y a parfois des musiques classiques où vous sentez que c'est le printemps, il y a les oiseaux, il y a le matin qui se lève. C'est incroyable. Vous sentez, vous voyez la vision, juste avec quelques petites notes de musique. Une petite flûte, un petit machin. C'est incroyable. Ça, c'est la force de réaliser ses rêves. Et le peuple d'Israël a cette force-là. Seulement, elle est atrophiée parce que 2000 ans, nous n'avons pas eu la possibilité d'extérioriser tout ça. C'est pour ça que dès qu'on nous a lâchés, on a tout inventé, Baruch HaShem. Tout inventé. Vous savez que même Facebook, c'est l'invention d'un Israélien qui après a été pris par d'autres. Il y a toute une émission maintenant qui est en train de sortir, qui montre tous les dessins que ce petit jeune a fait bien avant que tout le monde lui prenne le projet et en fasse quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, des rayons laser qui vont remplacer toutes les fusées, les gens deviennent fous. Comment un petit pays comme ça, on tape dans une poubelle, il y a 10 startups qui sortent. C'est quoi ça? On arrive à faire imprimer un cœur en 3D avec une imprimante et un cœur qui bat. Baruch HaShem, parce que nous rêvons et nous sommes capables de traduire ces rêves. L'école Orech HaPsukim Hamusak Braha Choser ou Mofia Beribouy. Tout le long de ces bénédictions, eh bien, le terme Braha, Barer, tel c'est multiplier les choses. C'est pour ça que l'autre a utilisé ça pour multiplier les pains. Parce que Barer, si vous prenez la racine de Beracha, c'est Bet Reshka. Bet c'est 2, Resh c'est 200. Et 4, c'est 20. C'est 222. C'est ça la bracha. Abracha y kesher. Donc la bénédiction, ce que vous appelez bénédiction, c'est un lien. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu ou c'est Dieu qui vous bénit? Alors pourquoi vous dites Baruch Ata Hashem? Béni sois-tu éternel. Ça me fait bien rire. Tu bénis l'éternel, mais qui tu es toi? Ton copain, tu n'arrives pas à le bénir, soit tu bénis l'éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem? C'est pas que je te bénis. C'est que je me relie à toi, tu es relié à moi, Kadosh Baruch Hu. C'est ça la véritable traduction. Medubar be'achat mitsurot achibur. Donc à chaque fois que vous entendez Beracha, arrêtez de croire que c'est une bénédiction. Alors c'est vrai, c'est un mot maintenant qui a été utilisé, donc maintenant on a l'habitude. Ok? Ma? Et qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Mais qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Non, bénédiction c'est tout simplement une bonne parole. Bénédiction. Une diction bonne, c'est tout. Quand tu parles mal, c'est une malédiction. C'est tout. Vous comprenez comment tout a été n'importe quoi aujourd'hui? On comprend même pas ce qu'on raconte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hashem? Ça veut dire Dieu, tu es relié à moi. Je suis branché à ta prise. Et c'est tout. C'est ça que ça veut dire Baruch Hashem. J'ai une fiche USB. Il n'y a plus de prise. Maintenant, c'est USB. Ça s'appelle comme ça. Birkat Kohanim, c'est le lien des Kohanim. Exactement, parce que ils font le lien entre l'infini et les hommes qui sont en train de faire passer, de relier en fait. Qu'est-ce? Merci, monsieur. Je reçois plus des notes. Super. Quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce? Ben, tout simplement parce que la question a été posée par Daniel tout à l'heure, le corps, les frères, le corps a du mal avec l'âme. L'âme l'embête, l'âme c'est le petit garçon qui est toujours le faillot. Ah, quand vous faites quelque chose et que vous avez envie d'avoir certains plaisirs dans ce monde, mais que ce n'est pas selon les véritables degrés de l'âme, qu'est-ce que vous dites à l'âme ? S'il te plaît, va un petit peu, je te mets dans un petit trou, laisse-moi fausser, après je te récupère. C'est ça qu'on fait en réalité. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de le faire, c'est ce qui se passe. Les chachamim nous disent qu'au moment d'une faute, la neshama sort du corps. Elle dit à l'homme, fais tes bêtises, je vais boire un café moi. J'ai pas envie de participer à tes bêtises. Quand tu auras fini, peut-être que je reviens. Ah. Comprenez maintenant pourquoi tous les matins, vous dites merci à Kadosh Baruch Hu de ne pas m'avoir fait autre chose qu'un homme d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que tous les soirs en allant dormir, votre neshama monte, comme dans les valises à l'aéroport. Combien de fois ça vous est arrivé d'arriver dans un autre pays, la valise n'est pas venue? Ça veut dire que vous avez envoyé votre neshama, elle est partie dans tous ces machins, la boba, le matin, elle doit revenir. Et si c'est pas la bonne qui revient? Mais quand c'est la bonne, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as réveillé, je suis encore conscience de ma véritable vie. Donc tu m'as redonné la vraie valise qui correspond à mon âme. Vous croyez que c'est facile? Donc c'est pour ça que le corps se débarrasse facilement de son âme. On vend très souvent notre neshama pendant la journée. Sans arrêt, on met cette neshama dans un petit trou, ne serait-ce que quelques secondes. Hein. Et après, on essaie de la récupérer. Il echar kol bracha matrila mina elyonim velo mina adam. Donc, moralité, la bénédiction, ce que vous avez traduit par bénédiction, ce que je viens de vous apprendre, vous enseigner ensemble, en étudiant ensemble, que s'il s'agit ici d'un lien, ce lien commence par qui? Par le haut ou par le bas? Par le haut, pas par le bas. Jamais par le bas. Parce que si, maintenant vous comprenez, Baruch Ata Hashem, pas Baruch Ani, c'est pas moi qui suis relié. C'est toi qui crée les liens à Kadosh Baruch Hu. Parce que si ça dépendait de moi de créer un lien, étant donné que je suis subjectif, mais chacun aurait créé les liens qu'il veut. Ça s'appelle de la Avoda Zara. Chacun a son petit dieu. L'un a le dieu de la pluie, l'autre le dieu de la mer, l'autre le dieu de la terre, l'autre le dieu des bateaux, l'autre le dieu des je sais pas quoi. Et chacun met son petit dieu dans la poche, comme Baal Zvouv dans la Gemara, et dès qu'il a un petit problème, hop, il remet dans la poche. Ça fait comme ça, Baal Zvouv. Une petite avodazara. Donc ça ne peut pas commencer par nous. Écoutez bien, c'est une règle. Le judaïsme, c'est toujours, je vais répéter 5 fois, toujours, 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 du haut vers le bas. C'est l'infini béni soit-il qui se répand de sa lumière dans ce monde. C'est jamais nous qui montons quelque part. On n'a pas le droit de monter parce que monter, ça sous-entend que moi j'ai trouvé, que j'arrive à localiser, que j'arrive à pointer du doigt, que j'arrive à définir l'infini. Chas v'shalom. C'est de la avodah zara. Donc reste à ta place. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Tout simplement réceptionner cette lumière qui t'arrive et la laisser passer. Te laisser te devenir un conducteur de lumière. Cette lumière nous vient parce qu'elle nous fait vivre. Nous vivons de cette lumière infinie. Donc laisse-la te traverser. Laisse-la te remplir. Et au moment où tu la laisses, tu t'élargis, pas physiquement seulement, okay, pour laisser le plus de lumière se traverser, pour donner cette lumière à tous ceux qui manquent. Vous comprenez que quand je prie dans la Amida, et que je dis par exemple, Baruch Ata Hashem Chonen Adas, toi tu es relié en donnant le discernement, la sagesse, l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant l'intelligence est en train de me traverser au moment où je dis ça, et en me traversant, je fais passer à tous les amis, à tout le peuple d'Israël. Moralité, on s'auto-féconde, on devient de plus en plus intelligent parce que chacun fait la bénédiction pour tout le monde. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais si tu arrêtes à toi-même, l'intelligence pour moi, l'argent pour moi, à un moment donné, tu es bloqué, il n'y a plus rien où mettre, donc c'est foutu, tu es mort. Comprenez que si on me donne 1000 shekels et que je donne 200 shekels, je suis devenu un conducteur. Donc l'infini va continuer à faire passer par moi. Mais s'il me donne 1000 shekels et que les 1000 shekels, ils rentrent dans la poche et ils sont morts étouffés, ben c'est fini, il n'y a plus de place. Pour recevoir, il faut donner. Dans tous les sens du terme. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je connais ce cours, c'est moi qui l'ai écrit. J'aurais pu rester chez moi tranquille. Non, j'ai le devoir dans ma Torah de l'être Yoel que je suis, qui a reçu une capacité de transmettre. Eh bien, je dois venir, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si c'est fatigant, je dois le faire. C'est une responsabilité par rapport à mes frères et à mes sœurs. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup plus de divin dans le monde. C'est comme ça qu'un homme d'Israël doit réfléchir. Et au moment où je fais ça, les plantes dehors sont plus vertes. Elles vivent mieux. Les animaux deviennent de plus en plus épanouis. Les êtres humains, les malades dans les hôpitaux s'en sentent mieux. Maintenant, il devait y avoir quelque chose, un soldat était sauvé de la mort. C'est comme ça que ça marche, nous on ne comprend pas. On a l'impression qu'on est dans une petite classe à étudier des petits textes. Rabotai, ça a une force cosmique. Et c'est pas moi maintenant, c'est tout le monde parce que nous sommes en train de créer ici une énergie qui est en train de sortir dans le monde. Ça, c'est le judaïsme d'aujourd'hui et de demain. C'est le judaïsme, ce qu'on appelle la Torah de Eretz Israël. C'est une Torah qui voit l'ensemble et qui arrête de s'occuper seulement de tes petits problèmes individuels. En ben David ba ela keshet ichle puruta minakis. Le Mashiach ne viendra, nous dit la Gemara, que lorsque tu rentreras ta main dans les poches, tu ne sortiras plus de Pruta. Qu'est-ce que ça veut dire Pruta? Une pièce de monnaie? Non. Prati. Quand tu arrêteras d'être un individuel, un égoïste, tout ce que tu sors de tes poches, c'est moi, 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 moi. Dans une phrase qui a 200 fois moi. Moi, je pense. Ça va, on sait. Je pense, ça suffit. Moi, je pense. Ça, c'est le secret de notre Torah. Petite histoire, juste pour terminer. Le Baal Shem Tov, Alav HaShalom, avait un élève qui était un petit peu orgueilleux. Et toutes les deux phrases étaient moi et 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 moi. Donc le Baal Shem Tov, il a dit, toi, demain, tu ne viens pas à la yeshiva, tu vas au marché. Il dit, pourquoi je ne viens pas à l'Yeshiva? Il dit comme ça. le Baal Shem Tov dit, on respecte. Les autres vont à la yeshiva, lui va au marché. D'un coup, il y a un petit voleur qui vole une pomme, il se sauve, et le vendeur de pommes lui court après. Au voleur, au voleur, au voleur. Lui, en passant, il lance la pomme, et qui c'est qui la prend? Le Bachour Yeshiva. Et tout le marché en train de le tabasser. Et il dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il est venu gonfler le lendemain à la Yeshiva. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, regarde combien de fois tu as dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, pour corriger tous les c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Toda Rabba. Demain soir, il y a un cours, Bezrat Hashem, à Eliezer Yaffe, sur un nouveau programme que nous avons commencé, qui est la Torah du Rav Kook, sur le livre de Horos, 20h15.